Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrière virée!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, 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 captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir, réalisée par Christian et entièrement consacrée au thème de la Lune dans la BD. Le mythe du voyage vers la Lune est assurément l'un des plus anciens qui soit. Dès le XVIIe siècle, des ouvrages de pure imagination avaient décrit de folles équipées dans l'espace. Il a pourtant fallu attendre 1865 et le célèbre « De la Terre à la Lune » pour qu'une certaine rigueur scientifique fasse son entrée dans ce domaine. Le roman de Jules Verne a rapidement fait école et de nombreux ouvrages abordant le même thème sont parus au début du XXe siècle, le plus remarquable étant sans doute celui d'H.G. Wells, « Les premiers hommes sur la Lune ». Les films de Méliès, « Le voyage dans la Lune » en 1903, et de Fritz Lang, « La femme sur la Lune » en 1928, sont venus ensuite prendre le relais et mettre en image ces rêveries. La BD, bien évidemment, n'a pas manqué elle aussi de s'intéresser au sujet. Dans cette émission spéciale, nous passerons rapidement en revue les albums de BD consacrés à la Lune avant de nous pencher plus spécifiquement sur l'œuvre d'Hergé. Le diptyque des aventures de Tintin intitulé « Objectif Lune » et « On a marché sur la Lune » constituant la plus indispensable de toutes les BD qui se soient intéressées aux satellites naturels de la Terre.
Et nous voilà partis.
Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Mais ici, mille sabords, c'est nous qu'on salue, et qui sait ? Tonnerre de Bresse, et peut-être pour la dernière fois.
Oh, on n'a pas l'air de vous amuser beaucoup, capitaine.
Mais pourquoi aurais-je l'air de m'amuser ? Parce que nous partons pour la Lune ?
Mais enfin, capitaine, c'est tout de même un grand moment, le départ pour la Lune.
Pour la Lune ? Vous vous rendez compte ? Oh, laissez-moi rire. Mais si l'engin de cette hurluberlue de tournesol n'éclate pas en petits morceaux au moment du départ, eh ben nous irons nous promener quelque part entre la Grande Ourse et Jupiter, et nous n'en reviendrons jamais. Libre à vous de trouver qu'il y a là de quoi pousser des hurlements de joie.
Oh, je voulais dire que... Oh,
okay.
Oh, regardez, capitaine, nous arrivons. Extraordinaire, mais regardez donc. Les tours de montage sont illuminées. La fusée est prête. C'est fait, Eric.
Mais avant toute chose, on écoute les Rolling Stones avec un titre datant de 1968, un an avant le premier pas de l'homme sur la Lune, Child of the Moon, l'enfant de la Lune.
The high.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier.
C'est une émission spéciale entièrement consacrée au thème de la Lune dans la bande dessinée que nous vous proposons ce soir. Dans son fameux roman paru en 1865, De la Terre à la Lune, trajet direct en 97h20, Jules Verne imagine une aventure extraordinaire et palpitante. Après la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, le Gun Club de Baltimore tente d'envoyer un obus habité par 3 hommes sur la Lune. Devenu une référence dans le domaine de la science-fiction, ce roman forme la première partie d'un diptyque qui se clôt avec « Autour de la Lune » paru 4 ans plus tard. De la Terre à la Lune a été adapté de nombreuses fois à l'écran pour le cinéma et la télévision, et ce dès 1902 avec Georges Méliès et Le Voyage dans la Lune. Ces adaptations en bande dessinée sont plus rares. Dans son dictionnaire encyclopédique de la BD, Henri Filippini recense 3 BD espagnoles parues entre 1960 et 1977. On peut ajouter le diptyque dessiné par Marcel Uderzo en 1995 pour les éditions Connivence et celui signé Pierre Guilmard, proposé par le magazine Télé 7 jours en 2010 dans la collection Les Incontournables de la BD. Dans la continuité de l'œuvre de Jules Verne, Alban Guillemois propose en 2006, chez Albin Michel, un album très original intitulé « Louis la Lune ». Il imagine qu'en 1865, Jules Verne est parti avec une machine de son invention sur la Lune et en a ramené 3 sélénites, Mira, Passepartout et Oxyrine. Mais en rentrant dans l'atmosphère terrestre, Oxyrine a muté et est devenue l'incarnation même du mal. Jules Verne réussit à l'emprisonner tout en haut de la tour Eiffel. Mais en 2169, Louis, son descendant, découvre que son aïeul avait mis au jour le secret de la vie lunaire et est contacté par les Sélénites pour lutter contre Oxydrine qui a réussi à s'échapper et qui compte conquérir le monde. C'est le début d'une grande aventure pour le jeune Louis et son amie Zoé. Je vous rappelle le titre de cette jolie aventure, Louis la Lune, c'est signé Guillemois et c'est chez Albin Michel. On ne présente plus par contre aux amateurs de bande dessinée la série de Cap et de Croc. Signée Erol et Masbou, elle est parue de 1995 à 2010 chez Delcourt et raconte les aventures picaresques et fantastiques de Maupertuis et Villa-Lobos, 2 héros que la quête de gloire et de fortune a menés jusqu'à la Lune, en montgolfière, de geôles en galère, d'abordages en duel virevoltant. À présent, il est temps pour eux de regagner la Terre, mais l'amitié, l'amour et le sens de l'honneur s'opposent parfois. Avant de tirer leur révérence, ils devront affronter d'ultimes et terribles coups de théâtre. Ce n'est que dans l'ultime tome de la série de Cap et de Croc, un album intitulé « De la Lune à la Terre », que Maupertuis et Villa-Lobos arriveront à bon port. La BD états-unienne, elle aussi, s'est intéressée à la Lune. Dans l'univers Marvel, le satellite naturel de la Terre comprend une face bleue dotée d'une atmosphère. C'est notamment là que se déroule l'événement majeur de l'histoire des X-Men, le fameux groupe de super-héros mutants, dans le numéro 137 de Uncanny X-Men, paru en septembre 1980 et signé Chris Claremont et John Byrne. Cet événement majeur, c'est le sacrifice de l'un des membres des X-Men, Jean Grey, que ses pouvoirs devenus démesurés rendent dangereuse pour l'univers entier. Lorsqu'elle se transforme en phénix, elle peut dévorer une planète entière. Jean préférera se suicider sous les yeux de l'homme qu'elle aime, Cyclope.
Regarde-moi. Jean, reste avec moi. Non, 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 parle-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Reviens, reviens ici, Jean.
Tue-moi.
Quoi?
Tue-moi avant que je fasse mourir quelqu'un.
Dis pas ça.
Je t'en prie.
Non, tu dis pas ça.
Tue-moi.
Stop, tu me regardes, regarde-moi, Jean. Tu vas t'en sortir. On va t'aider. T'entends, le prof va t'aider, il peut vaincre ce truc-là.
Je vais pas être vaincu.
Je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle aventure. futur est pas grand chose pour te faire rire. Donc j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir. Cha-cha-cha. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement seuls et on se disait quelquefois c'était juste une aventure.
Captivant, le magazine de la bande dessinée s'intéresse ce soir aux représentations de la Lune dans les albums de BD. L'équipée lunaire de Spirou et Fantasio est racontée dans La face cachée du Z de Velman et Johan, paru en 2011 chez Dupuis. Dans cet album, le savant fou Zorglub décide d'investir la Lune pour mener quelques expériences de son cru. Pragmatique, il s'appuie sur les fonds de très riches et vaniteux imbéciles qui investissent leur argent sur la Lune pour en faire un parc d'attractions géant. Poussé par sa volonté de remercier le comte de Champignac pour son apport scientifique, et un peu par sa vanité, Zorglub transporte celui-ci, ainsi que Spirou et Fantasio, à la découverte de son laboratoire lunaire et de Vegas Station, le parc de loisirs le plus cher de l'univers. La véritable conquête de la Lune par les missions Apollo n'a pas manqué d'inspirer quelques auteurs de bandes dessinées. Joe White a signé en 2009 un album intitulé First Moon, paru dans la collection Cockpit des éditions Paquet. White y suit l'itinéraire exceptionnel de Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Buzz Aldrin. Après avoir participé au combat aérien de la guerre de Corée, ces trois pilotes ont rejoint le programme spatial de la NASA. Devenu astronaute, il participe au fameux vol de la capsule Apollo 11, au cours duquel le module Eagle a luni en ce 20 juillet 1969.
L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Pour l'instant, on ne distingue pas grand-chose, cette image qui paraît assez floue, mais il faut dire qu'il n'y a pas tellement de recul. On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre, et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle.
Et la zone d'ombre, me semble-t-il, est une partie de... pourrait être une partie de l'image cachée par une partie de barreau. L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que lui a donné encore récemment le Dr Berry et descend extrêmement lentement avec beaucoup de précaution. Un barreau après l'autre, bien sûr, mais il faut un temps infini, semble-t-il, à ce pied pour atteindre le barreau suivant.
Ça n'a pas l'air commode du tout, du tout, du tout. Ça y est, le pied est sur un barreau, mais il a bien mis 5 secondes à y parvenir. Il continue à descendre. On l'aperçoit entre deux plans. Il faut vraiment savoir qu'il s'agit d'Armstrong, mais tout le monde s'y attend tellement qu'on pourrait identifier n'importe quoi. Je pense qu'il a maintenant descendu la moitié des degrés de l'échelle.
Il faut dire qu'on ne distingue pas encore tout à fait le corps d'Armstrong parce que cette première vue, ces premières vues de télévision sont prises, je crois, sous le LEM, très exactement, presque sous l'échelle. L'image vient de changer encore et maintenant nous avons Armstrong de face. L'image n'est pas tout à fait nette, mais nous avons Armstrong de face. Il a les deux pieds sur le sol lunaire. il est facile à distinguer car la forme du casque permet de repérer tout de suite la hauteur du visage et la forme de son équipement de survie sur le dos permet de repérer également la silhouette en général. Armstrong marche, il a fait à peu près un pas maintenant, il est à un peu plus d'un pas de l'échelle du LEM. Et il avance encore une fois avec beaucoup de précautions.
On dirait un scaphandrier. Au début, Armstrong doit d'ailleurs tester son équilibre et évaluer à peu près la vitesse qu'il empruntera pour marcher sur la surface lunaire.
Le premier tome de la série Caroline Baldwin d'André Taimans, un album intitulé Moon River, est paru en 1996 chez Casterman. Détective privé, la jolie Caroline Baldwin y est chargée de résoudre les énigmes les plus difficiles. Sa mission, retrouver Frank White, un brillant astronaute, vétéran de la conquête lunaire. En 2011, une édition spéciale de Moon River est sortie avec un bonus exceptionnel, un CD contenant un clip musical dans lequel l'astronaute Frank White est interprété par Jean-Pierre Talbot, qui fut Tintin au cinéma au début des années 60, et dans lequel Caroline Baldwin est interprétée par Sandrine Kaa. Et c'est cette dernière qui reprend superbement dans ce même CD la chanson Moon River de Johnny Mercer et Henry Mancini.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world that's such a lot of world to see. Where after the same rain waiting round the bed, my huckleberry friend, Moon River and me. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world that's such a lot of world to see. Where after the same rainbows end, waiting round the bed, my huckleberry friend, Moon River.
Marc Dacier.
Ce soir, dans le magazine de la bande dessinée, nous nous intéressons au thème de la Lune. Et qui dit BD et Lune dit forcément Tintin, tant le diptyque d'Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune a marqué l'inconscient populaire.
Qu'avez-vous, Tintin ?
Ah, rien, professeur, c'est l'émotion, mais tout va bien. Bon, je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée.
Là !
Plus que quelques échelons. Plus que 3, plus que 2.
Allô, Tintin, vous m'entendez ?
Oui, professeur, ça y est. J'ai fait quelques pas. Et pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur la Lune !
Publié en feuilleton dans l'hebdomadaire Tintin à partir du 30 mars 1950, Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont été voulus par Hergé comme un récit d'anticipation aussi précis et réaliste que possible. Pour accroître encore la rigueur de l'entreprise, Hergé a songé de bonne heure à y associer des spécialistes du sujet. Parmi les nombreux volumes qu'il avait consultés, l'un, L'homme parmi les étoiles, était dû à une proche connaissance, le docteur Bernard Heuvelmans. Hergé est alors entré en contact avec lui pour mieux approcher les possibilités et les difficultés du projet. Je vous propose d'écouter Hergé parler de ses sources. C'était en 1965, juste après que le cosmonaute soviétique Leonov ait réussi la première sortie extravéhiculaire dans l'espace, dans le cadre de la mission Voskhod 2.
Je me mets surtout à la place de Tintin et, comme je le connais, il doit être un petit peu attristé pour les Russes de leur avoir coupé la pesanteur sous les pieds, si j'ose dire. Hein? Parce que, en fait, on est habitué. Le fait d'avoir vu cela, même en dessin, diminue l'étonnement qu'on aurait et l'admiration qu'on aurait devant l'exploit lui-même, qui est d'ailleurs admirable, bien entendu.
Et comment avez-vous pu prévoir cela il y a 10 ans déjà?
Je n'ai rien prévu du tout, je ne suis pas du tout un esprit scientifique, mais j'ai pensé à envoyer Tintin sur la Lune, et puis alors je me suis surtout documenté, j'ai fait appel aux lumières du professeur Ananoff, et un autre homme de science, Bernard Heuvelmans, nos compatriotes à Paris également, et eux qui m'ont donné une grande partie des possibilités qui étaient inscrites déjà dans le vol spatial.
Déjà il y a 10 ans, ces hommes de science envisageaient cela comme possible, donc.
Oui, oui, bien entendu, tout ça était prévu. Enfin, prévu, on ne pouvait pas encore le réaliser, mais du moment qu'on envisageait un vol dans l'espace, et des capsules et des fusées, il était certain que les hommes devaient à un moment donné pouvoir sortir de ces engins, et donc être munis de combinaisons étanches, et voilà, faire ce qu'ont fait les deux cosmonautes russes.
Captivant. Les dieux font leur lessive avec Olympe, qui laisse le linge blanc et les mains douces.